Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Bonsoir Baptiste Beaulieu. Merci de venir, d'avoir accepté cette invitation pour nous présenter votre dernier ouvrage, le sixième roman que vous avez écrit, dixième livre, peut-être un peu plus même, que vous avez écrit, qui s'appelle « Ouvons les larmes quand elles sèchent » et qui est sorti il y a un mois aux éditions L'Iconoclaste. A-t-on besoin encore de vous présenter, Baptiste Beaulieu ? Alors je vais quand même le faire. Vous êtes médecin, vous êtes auteur à succès d'une dizaine d'ouvrages, allant du roman au livre jeunesse en passant par la poésie. Vous êtes aussi chroniqueur sur France Inter. Où trouvez-vous le temps de faire tout ça?
Avant, je disais que j'avais pas la télé, pas d'enfant. Maintenant, j'ai toujours pas de télé, mais j'ai un enfant.
Vous êtes jeune papa, en plus. Donc.
Non, c'est surtout que je suis terrifié par l'ennui. Moi, l'ennui, c'est terrible. L'ennui, ça déclenche des pensées très sombres. Et donc, j'ai toujours besoin de m'occuper, d'occuper mon espace mental. Et que ce soit au cabinet médical ou l'écriture, ce sont deux moyens de pas penser à d'autres choses. Marguerite Duras, elle a une phrase très belle, elle dit tout. Tous les soirs, toute ma vie, j'ai hésité entre la soupe aux pommes de terre ou le suicide. Oh ben on commence bien. ça va être plus drôle après, je vous conviens. Enfin, je vais essayer. Je vais faire des proutes avec les bras et tout. Mais oui, c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué parce que je crois que je suis quelqu'un d'assez sensible et que quand on voit la marche du monde, je sais pas comment on peut être parfaitement heureux. Mais je suis très heureux en ce moment.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser, parce qu'en fait, le médecin est le réceptacle en fait, de toute la misère du monde, et il est là, c'est la première question qu'il pose, c'est comment vous allez, patient. Mais vous, comment vous allez, petit?
Mais moi, je vais super bien. Écoute, j'ai pas à me plaindre. J'ai le plus beau bébé du monde, en toute objectivité. Et puis j'écris les romans que j'ai envie d'écrire. Et puis surtout, il y a des gens qui me lisent. Non, faut pas croire, vous savez, les écrivains qui disent « Mais non, mais moi, j'écris pour écrire. » Voilà, c'est pas vrai. On se fiche pas de ne pas être lu. C'est hyper important. C'est hyper important d'être lu. Moi, je suis persuadé qu'on peut changer, faire bouger les lignes avec des livres. Et c'est ce que j'essaye de faire dans chacun de mes romans, à mon niveau. Essayer de faire bouger un peu les lignes, quoi.
C'est ce qu'on va voir justement durant cette heure passée ensemble. Alors, ce soir, on parle principalement de « Où vont les larmes quand elles sèchent ?». Donc, sixième roman, c'est probablement votre livre le plus ouvertement autobiographique. Mmh. Je dis bien ouvertement parce que vous nous avez déjà habitués, en fait, dans vos productions littéraires, à parler de vous de manière détournée. Il y avait par-ci, par-là, en fait, des éléments qui étaient romancés, mais de votre vie. Alors là, le héros ne s'appelle pas Baptiste, mais Jean. Mais par contre, tout ce que vous racontez dans ce livre est vrai, directement inspiré de ce que vous vivez dans votre quotidien au cabinet médical à Toulouse, ou de ce que vous avez vécu. Alors, ce livre, est-ce que c'est important quand même, parce que je pense que il y a plein de manières de l'aborder, mais ça nous rappelle en tant que lecteur que la médecine a une place importante dans nos vies et qui ne dépend pas seulement de sa capacité scientifique à résoudre des maux. Et la médecine, vous le rappelez, c'est le soin avant tout. Où vont les larmes quand elles sèchent raconte donc la vie de Jean, ce docteur pourtant si empathique, qui ne parvient plus à verser la moindre larme depuis une nuit irréparable. Et vous nous racontez justement que quand vous étiez encore interne au CHU d'Auch, il y a eu une nuit qui a changé le cours de votre existence.
Oui, vous savez, je pense que tous les soignants ont ce moment au cours de leur carrière, au début, où ils sont confrontés à la question du mal. Pourquoi le mal touche les êtres humains et particulièrement pourquoi il touche des êtres innocents comme les enfants. Et je ne dis pas que quand on est vieux, c'est moins grave, mais... Moi, j'ai eu cette intervention avec le SAMU. Je la raconte un petit peu dans le roman. En gros, pour faire vite, on est appelé pour un petit de 6 ou 7 ans qui fait une crise d'épilepsie. Et la mère, devant son enfant qui convulse, s'est trompée d'adresse. Au lieu de dire 42, elle a dit 24. Elle a interverti des chiffres. C'est quelque chose d'aussi bête que ça. Sauf que le Gers, c'est un grand département. Et donc, au lieu d'arriver en 5 minutes, on a mis 10 minutes. Mais c'était trop tard pour le petit. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, comment est-ce que cet enfant a pu mourir parce que sa mère l'aimant trop s'est trompée d'adresse. Il y avait quelque chose là de foncièrement injuste et qui me dépassait totalement. Et donc j'ai arrêté quelques temps mes études. J'avais besoin de verticalité. Je suis parti à Rome et à Jérusalem. Je pensais trouver des réponses. Je me suis surtout beaucoup amusé. J'ai beaucoup bu, j'ai fait la fête, j'ai fait l'amour, mais j'ai trouvé des réponses, pas auprès des religions comme je l'imaginais. En tout cas, j'ai trouvé mes réponses. Et ça commence notamment quand j'arrive à Rome en février. Alors moi, j'étais complètement teubé à l'époque, j'étais très très bête. Et je pensais qu'à Rome, il faisait tout le temps beau et chaud. Et donc j'arrive en février en tongs et en short. Et j'ai vite compris mon erreur, parce que ne faites pas ça chez vous. Et donc je raconte ce début de voyage, mais ce moment très symbolique où du coup je me précipite dans une friperie pour m'acheter un manteau. Et je trouve une peau retournée, un truc super beau, vraiment à 50 balles, alors que ça coûte tellement beaucoup plus cher normalement. En occasion, donc je l'achète, et puis au bout de quelques jours, je commence à me gratter, et puis sous la douche, je garde les poils, et je vois des trucs qui sautent, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça sautait partout, et j'ai vite compris pourquoi j'avais payé cette peau retournée 50 balles, j'ai écarté les poils de la peau retournée, et puis il y avait une sorte de zoo, mais j'ai fait ce qu'il faut faire dans ces moments-là, c'est-à-dire j'ai dû me raser de la tête aux pieds, et c'était une expérience quasiment métaphysique, parce que j'étais à Rome, loin de chez moi, avec ce fantôme d'enfant qui me poursuivait, et je me suis retrouvé devant la glace, sans un poil sur le corps, comme un bébé remis au monde, quelque part, en me disant, voilà, ton voyage commence, il s'est passé ce qui s'est passé, tu peux pas le défaire, mais tu es remis à neuf, et il faut que tu apprennes à partir de maintenant pourquoi il est arrivé ce qui est arrivé. Alors, je le raconte pas dans le livre, mais moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à l'époque, en hors de faire la fête, c'est la littérature et notamment la poésie. Et je parle souvent de lui, mais parce que c'est étrange comment il y a des livres parfois qui vous tombent entre les mains, vous les choisissez au hasard dans une librairie, mais c'est exactement le livre qu'il vous faut à ce moment-là. Moi, c'était un recueil de poèmes de Fernando Pessoa qui s'appelle Le Gardeur de Troupeau, pas le gardien, le gardeur, et qui raconte l'histoire d'un paysan qui sort de chez lui et qui raconte la campagne, il raconte les fleuves, il raconte les arbres, et il explique qu'il faut aimer les fleuves, la montagne, les rivières, les arbres, non pas parce que en tant que poète on voudrait mettre des métaphores ou des symboles. Il dit tout ça, c'est du mensonge. Non, il faut les aimer parce qu'ils sont là et qu'ils sont tels qu'ils sont. Alors on dit oui, bon, d'accord, pourquoi il faut aimer les arbres? Parce que ce sont des arbres et pas pour d'autres raisons. On lit, on tourne les pages, c'est très très beau. Puis il parle du froid qui tombe parce qu'il marche toute la journée. Puis il explique qu'il faut aimer le froid parce que sans le froid, on saurait pas ce qu'est le chaud. Et puis que le froid est la manifestation que le monde ne ment pas, qu'il est tel qu'il est. Et puis après, évidemment, on aborde des pages magnifiques sur la mort. Et moi, j'ai trouvé toutes les réponses que j'attendais, non pas dans la Bible ou le Coran ou la Torah, je les ai trouvées dans ce recueil de poèmes qui m'a. Mais ça a été une petite révolution métaphysique à l'époque. Et sa conclusion est sublime. Voilà, les enfants meurent aussi parce que le monde ne ment pas. Il dit la vérité. Et peut-être que quand on est adulte, c'est une manière pour le monde de nous dire qu'il nous traite en adulte.
Et c'est pour ça que vous encouragez vos patients à se lâcher, mais socialement à accepter en fait la douleur, accepter le fait de ne pas aller bien, et l'accepter en pleurant notamment.
Dans le roman, Jean il dit qu'il a un super pouvoir, et ça c'est un super pouvoir que j'ai, c'est que j'arrive à faire pleurer les gens. Et en plus il me paye, il me donne 25 euros pour ça. Et 26,50 maintenant, mais c'est tellement important, on a plus de lieu où pouvoir pleurer. Sans avoir le sentiment d'être jugé. Théoriquement, c'est ce qui devrait arriver dans un cabinet, ne jamais être jugé. Mais je raconte dans le livre comment j'accueille une vieille dame qui vient pour renouveler les traitements de son mari qui est gravement malade. Elle est ce qu'on appelle aidante. Et je lui demande comment elle va. Elle me fait « ça va ». Et je fais « non, dites-moi vous, comment ça va vraiment ?» Et là, elle se met à pleurer. Et bon, voilà, encore une victoire, super pleureur. Et une autre patiente qui vient avec son bébé, il dit « Ah, il pleure tout le temps, il pleure, docteur, je ne sais pas quoi faire. » Et puis je prends le petit, je dis « Ah, Charles, viens avec moi, on va laisser maman pleurer. » Et c'est comme si je lui avais donné l'autorisation, et elle s'est mise à pleurer, et je pense qu'elle avait besoin de ça. Et malheureusement, on n'a plus de lieux sanctuarisés dans notre société où on peut ouvertement parler, pleurer. Et pourtant, quand on y réfléchit, l'hôpital ou le cabinet médical, c'est vraiment le vivant symbole de la civilisation. Qu'il y ait des lieux ouverts où on peut aller dire ça va pas, j'ai envie de me flinguer ou j'ai envie de flinguer mon patron, c'est ce qui fait qu'on est une civilisation et pas un agglomérat d'individus qui pensent qu'à leur tête, quoi.
Mais pour autant, vous, en tant que médecin, et sensibilisons d'ailleurs les médecins dans leur ensemble, vous êtes formé pour retenir vos émotions, en fait. Vous n'avez pas le droit d'être faible, en fait.
On n'est pas formé du tout. Déjà, en 10 ans d'études, on a une heure de cours sur consultation et annonce d'une maladie grave à un patient. Donc, si vous ne savez pas faire avant, vous ne saurez pas faire après. Ce qui est un peu problématique, parce qu'une carrière médicale, on va avoir combien de vies entre les mains pendant 30 ans ? Combien de vies on peut abîmer si on n'est pas bien traitant, si on ne sait pas faire. Et c'est horrible de dire bon, qu'on apprend un petit peu sur le tas, ça ne devrait pas être comme ça, malheureusement. Mais c'est compliqué d'accueillir l'émotion. Et dans le livre, je raconte une anecdote qui me fait rire chaque fois que je la raconte, mais parce qu'elle est vraie et que toutes les choses vraies sont parfois très, très drôles. Je travaille avec des femmes victimes de violences conjugales. On travaille avec le foyer ou l'âme de gouge. C'est des foyers qui accueillent des femmes qui ont fui leur foyer. Et c'est très étrange parce que c'est des lieux qui n'ont pas d'adresse. C'est-à-dire, vous marchez dans la rue, vous passez du 13... au 15, et puis vous avez passé un bâtiment, mais qui n'a pas d'adresse en fait, pour que les hommes puissent pas retrouver l'endroit où sont les femmes. Et donc, on travaille avec ces foyers, et c'est parfois difficile un peu le soir quand on a vu la même patiente qui revient pour qu'on lui enlève une agrafe du front parce que son mari l'a frappée. Parfois, le mari est là, il attend en salle d'attente. J'ai dit dans le livre, on va pas aller dans la salle d'attente pour casser la gueule du mari parce que il est grand et qu'on est des hommes et qu'on est lâche. Et puis surtout, ça rendrait pas service à la femme. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait nous pour gérer cette frustration et cette colère, parce que on a tous en nous cette croyance enfantine de vouloir espérer en un monde juste, mais le monde n'est pas juste. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cette colère? Et je raconte dans le livre comment un soir, du coup, je rentre d'une journée très chargée sur le plan émotionnel. Et il y avait un gars qui s'était garé devant mon entrée de parking, parce que mon entrée de parking à l'époque était devant un Monoprix. Donc les mecs se garent parce qu'ils ont toujours des courses à faire. Ils en ont que pour 10 minutes. C'est faux, ils mentent. Et donc moi, j'étais là comme un fou. Je voulais rentrer chez moi pour pleurer dans un pot de glace. Et donc ce jour-là, je suis sorti, je suis allé dans le Monoprix. On m'avait dit, fais ça avec du rouge à lèvres, mais j'ai pas de rouge à lèvres sur moi. Peut-être le samedi soir, mais vous saurez pas. Et du coup, j'ai acheté une plaquette de beurre et je ressors. J'étais comme un fou. Il a pris pour les autres, vraiment. Et donc, je me souviens, j'écris, je voulais écrire ceci n'est pas une place de parking, mais j'ai pu écrire que ceci n'est pas parce que j'ai trois pieds, il y avait plus de beurre. Et ce que je dis dans le livre, que la moralité de l'histoire, c'est qu'il faut acheter du 250 grammes, pas du 125. La colère, elle est plus lourde que 125 grammes.
Il y a quelque chose de frappant à la lecture de ce texte, c'est que une fois passé la barrière du roman à la fois très bienveillant, où on va rire, on va pleurer, on va traverser par beaucoup d'émotions, ce qui est un peu l'argument commercial du livre, on voit les publicités dans le métro, à Paris notamment, mais très très vite on se rend compte que en fait c'est aussi probablement l'ouvrage le plus politique que vous ayez écrit, même si les questions qu'on va aborder maintenant sont des questions qui traversent votre œuvre, donc ça va être une question en plusieurs étapes. Revenons 10 ans en arrière. En 2014, on vous avait reçu, alors pas dans cette pièce, mais un peu plus haut, pour votre premier livre, Alors voilà, Les mille et une vies des urgences, qui était une adaptation en fait littéraire d'un blog que vous aviez commencé 2 ans auparavant. À l'époque, vous étiez encore jeune interne à l'hôpital d'Auch, et ce livre avait pour but de réconcilier les patients et les soignants. Alors, ma première question, c'est, pensez-vous avoir réussi à avoir réconcilié les patients et les soignants?
Il avait aussi pour but que je m'achète une maison, ça a marché.
Et deuxième question, est-ce que vous avez pu acheter une maison grâce à ce
Est-ce que ça... Non, ça n'a pas marché, j'ai pas pu réconcilier, mais j'avais pas trop non plus d'espoir. Mais le but, c'est juste de faire un peu bouger les lignes et de déplacer surtout le pouvoir du corps médical vers les patients. Rappeler aux patients que c'est leur corps, c'est eux qui décident, et que nous ne sommes pas les papas ou les mamans de nos patients. Un médecin n'a pas à vous dire comment vivre. Il a à vous dire, voilà, vous avez telle pathologie, je peux vous proposer tel ou tel traitement. Sur le plan diététique ou quoi, ou des prévention des facteurs de risque, vous pouvez faire ça et ça, mais il n'a pas à vous dire c'est pas bien ce que vous faites, c'est pas possible ça. Et ça, c'est qu'un petit exemple du pouvoir qu'a le corps médical sur les patients et les patientes. Et ce pouvoir est confisqué par le corps médical. Je pense que c'est bien que ça change.
Pour autant, d'ailleurs, pour revenir à ce que vous venez de dire sur la responsabilité en fait du médecin et l'injonction qu'il peut avoir, vous dans ce livre-là, même si c'est aussi des prises de position que vous avez sur les réseaux sociaux, c'est que vous êtes en colère face aux charlatans en fait, aux gens qui vont profiter avec des paramédecines justement du pouvoir qu'ils vont avoir sur une personne malade, de sa faiblesse psychologique à ce moment-là. Et il y a un exemple qui est très touchant dans le livre. Vous parlez d'une vieille dame qui va pas bien, qui a priori reste pas beaucoup de temps à vivre et à qui son naturopathe lui a dit maintenant c'est tisane sans tisane, c'est de l'eau tiède et des graines et c'est tout quoi.
C'est une patiente que j'ai accompagnée jusqu'au bout. Elle avait deux filles Et elle était prête à, ce que je peux comprendre, encore plus maintenant que j'ai un enfant, elle était prête à prendre tous les espoirs possibles, à s'agripper à toutes les branches possibles. Et ce cochon lui avait dit, contre 90 euros, la consultation, sans venir chez elle, parce que moi j'y allais une fois par semaine, hein, j'allais voir les dégâts qu'il causait, il lui avait dit que voilà, pour arrêter le cancer, il fallait supprimer les sucres. Et jusqu'au bout, elle s'est fait un régime à l'eau tiède, au tofu et aux blettes. Hein, et je me souviens dans les derniers jours de sa vie, elle me disait, oh là là, je rêverais d'un quartier d'orange. Et j'avais envie de dire, mais allez-y, hein, les oranges. Hein. Puis il mettait des profiteroles avec, des magrets, voilà, magrets de canard à fond. Mais il se pose là la question de la responsabilité médicale, c'est-à-dire qui je suis à ce moment-là pour venir lui dire, vous savez, c'est fini, hein, j'allais dire les carottes sont cuites, mais là on reste dans la métaphore culinaire, mais les carottes sont cuites, faites-vous plaisir. Et en même temps, du coup, je la prive du dernier espoir qui lui reste. Mais c'est très violent parce que alors, évidemment, tous les naturopathes ne sont pas comme ça, parce que s'il y a un naturopathe dans la salle, au moment de la dédicace, il va venir me voir, vous savez, tous les naturopathes ne sont pas comme ça. Tous les all not naturopathes. Voilà. Not all naturopathe, voilà. Et le problème, c'est que ben, moi, j'allais la voir, cette patiente, j'allais la voir toutes les semaines. Elle avait mis des draps sur les miroirs parce qu'elle ne voulait plus croiser son corps, parce qu'elle avait ce qu'on appelle les métastases cutanées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas joli. Mais c'est compliqué d'être au cœur de cette famille-là, de voir ce drame qui se noue et de se dire, y a quelqu'un qui a un petit peu profité de la situation derrière, quoi. Et donc, oui, ça génère de la colère. Après, on achète du beurre, etc., etc.
Donc il y a 10 ans, vous étiez interne, maintenant vous êtes généraliste dans un cabinet en centre-ville. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez quitté l'hôpital ?
Parce que l'hôpital est une grande machine à fabriquer de la maltraitance, et de la maltraitance envers les patients, mais aussi envers les soignants. C'est terrifiant, j'en parle pas dans le livre, mais... Je me souviens d'un dimanche après-midi où j'ai une aide-soignante d'une EHPAD où je travaillais à l'époque qui m'appelle en disant « Voilà, je suis toute seule là pour tout l'étage, ils sont 40, je ne sais plus comment m'en sortir, est-ce que tu peux me prescrire des contentions physiques pour les plus agités ?» Et j'ai dit « Mais tu sais, les contentions physiques, c'est un acte médical qui est vraiment particulier à signer, c'est pas rien de priver quelqu'un de sa liberté. Je peux pas te le faire pour ce motif-là, quoi. » Et elle s'était mise à pleurer au téléphone, et je me suis dit probablement qu'elle est rentrée chez elle le soir en se disant c'est pas pour ça que j'ai signé, hein. C'est je suis pas l'aide-soignante que je rêvais de devenir, quoi. Et là, on se dit, mais l'institution, qu'est-ce qu'elle a fait contre cette femme, quoi? Qu'est-ce qu'elle a commis contre cette femme à ce moment-là? Et des exemples comme ça, j'en ai plein. J'en donne un dans le livre. Un des moments charnières, ça a été quand j'ai une patiente qui était sur un brancard. Elle y est restée, je ne sais plus, 6 ou 7 heures. Et puis elle avait 80 ans. Et un brancard, c'est dur, hein, assise, le matelas. Et on m'appelle parce que je bataillais. Parce qu'au final, on passe plus de temps au téléphone à l'hôpital à batailler avec les services pour obtenir une place qu'auprès au lit du malade, quoi. Service à l'étage qui m'appelle en disant « Écoute, on vient d'avoir un décès, une place qui s'est libérée. » Et je me suis redit au téléphone « Super !» et là, je me dis « Oulala, jeune médecin, tu te réjouis déjà que quelqu'un soit mort, attends quelques années. » Et là, je me suis dit « Il y a quelque chose qui cloche, Baptiste. » quoi. Dans cette grosse machine, il y a vraiment quelque chose qui cloche, quoi. Aussi, je raconte... c'est bête, mais c'est des tout petits détails, mais qui font qu'au final, on n'est plus en adéquation avec les valeurs qui sont les nôtres. Où je rentre m'occuper d'une patiente qui était âgée, qui avait fait un accident vasculaire cérébral, et c'était la fin de la journée, j'étais fatigué, j'avais pas mangé. Quand j'ai pas mangé, je suis comme les gamines. Voilà. Et on toque à la porte pour me dire que le gynécologue que j'avais appelé pour une autre patiente venait descendre aux urgences pour voir la patiente. Et je me souviens, j'ai même pas réfléchi, j'étais fatigué. Je dis, j'arrive, je termine avec l'AVC. Et la vieille patiente m'a regardé en me disant, c'est moi l'AVC. Et là, je me suis dit, oh là là, mais c'est pas le médecin que je veux devenir, en fait. Et probablement qu'elle a dû passer tous les dimanches midi en famille, en déjeunant, à dire, ah, tu te souviens, ce connard d'interne qui m'a traité d'un AVC, ils ont les oreilles qui sifflent tous les dimanches midi. Et elle a raison. Et c'est pas les soignants qu'on veut devenir. J'ai un infirmier qui m'écrit récemment un mail en me disant, tu sais, je fais ce métier depuis 30 ans, je l'aime, j'ai dédié ma vie aux autres, à l'hôpital public, mais ce matin, je me suis engueulé avec ma femme. Je dis, bon, d'accord, ça arrive à tout le monde. Enfin, moi, ça m'arrive moins qu'à d'autres. Quand on a une femme, j'imagine qu'on s'engueule régulièrement avec. Et il me dit, voilà, et je suis arrivé à l'hôpital, et j'arrêtais pas de repenser aux arguments, là. Et je m'occupe d'un patient, et c'était un vieux patient qui était... et je le mets sur la chaise percée, et on m'appelle dans une autre chambre. Et je suis sorti de la chambre, et j'ai pas réfléchi, j'ai laissé la porte ouverte, mais là, la famille est arrivée, a vu tous les gens qui passaient dans le couloir pouvaient voir leur ancêtre en train de faire ses besoins sur la chaise percée. Je sais pas pourquoi je fais ce geste-là, quand je dis faire ses besoins. Mais c'était dégradant, et j'aurais voulu dire, oui, vous avez raison, mais moi, ça fait 30 ans que je suis infirmier, pour moi, bah, le vomi, le crachat, les urines, les selles, ça représente absolument plus rien. Et ça, c'est un truc dingue, Sylvain, c'est de voir à quel point, quand on commence les études de médecine, on shift totalement. En une semaine, il y a tous les tabous naturels qu'on peut avoir de la société civile par rapport à ces fluides corporels ou quoi, mais ça saute à une vitesse, c'est incroyable. Incroyable comment on se départit de tout ça très rapidement, quoi. Et moi, j'avais ce mail, cet infirmier qui dit, voilà, je suis pas quelqu'un de mauvais ou de maltraitant, mais ce jour-là, je m'étais engueulé avec ma femme.
Ce que vous rappelez justement dans ce livre, en fait, c'est que les médecins, enfin, vous réhumanisez la figure du médecin en rappelant que, en fait, un soignant est avant tout un homme ou une femme qui a une vie, qui a une propre identité et qui effectivement peut avoir des problèmes. Et c'est salutaire quand même de le rappeler.
Qu'en fait, oui, le médecin n'est pas infaillible. On n'est pas des robots. Et ce que je dis dans le livre, c'est que tous les médecins sont pas maltraitants, mais tous les médecins maltraitants sont sur Terre. Et puis surtout. On n'est pas des boulangers dans le sens où si un boulanger vous parle mal ou vous jette une baguette à la tête, il vous a jeté une baguette à la tête, quoi. Si un soignant vous parle mal ou vous maltraite, l'enjeu n'est pas le même. Moi, même dans mon cabinet de médecine générale, je vois 30 patients par jour. Le soir, je rentre, je vous avoue, les visages se confondent un petit peu et je pense que c'est normal, hein, au bout de 10 ans. Mais le patient qui m'a vu, si j'ai été maltraitant avec lui, lui, il va se souvenir de mon visage. Et donc, ça fait une sacrée différence. Et évidemment, c'est une responsabilité dont il faut avoir conscience, quoi.
Autre chose que vous rappelez, et qui est très, très importante, que vous aviez déjà abordé dans Les gens sont beaux, qui est votre premier livre jeunesse, premier album, c'est qu'on a peut-être tous tendance collectivement, en fait, à oublier, que ce soit les patients et les soignants, en fait, qu'il n'y a pas forcément de hiérarchie dans la souffrance des gens, que chaque corps a une histoire et que chaque patient est unique.
Bah, chaque maladie se vit de manière subjective, hein. Les patients sont prisonniers avec leur corps, on est tous prisonniers avec notre corps qui nous accompagne au mieux 90, 95 ans, et on se débat tous avec des choses dont les autres ne savent rien. Je veux dire, quand vous montez dans le métro, il n'y a pas une seule personne dans la rame de métro qui ne se bat pas silencieusement contre quelque chose dont on ne sait rien. Et rappeler ça de temps en temps, c'est tellement important. Peut-être qu'on gagnerait à être un petit peu moins intime, entre guillemets, sur ces sujets-là. J'aime pas ce mot parce que rien n'est plus intime que l'extime, rien n'est plus politique que la maladie, par exemple. Peut-être qu'on gagnerait à se regarder les yeux dans les yeux. Bon, là, je vous vois pas, vous êtes dans le noir, mais à vous dire, voilà, c'est quoi ton histoire, c'est quoi ton combat. Moi, je te raconte le mien, tu me donnes le tien, comme si on s'échangeait des cartes Pokémon. Mais peut-être que ça permettrait d'apaiser quelque chose au sein de la société, de voir qu'on est tous égaux face au corps, quoi.
Oui, c'est ça, un riche ou puissant, enfin, riche, tout le monde est égal face à la maladie et à la souffrance.
Ah ben oui, bien sûr, je pense souvent, comment s'appelait le patron d'Apple qui est mort d'un cancer du pancréas et qui pourtant était l'homme le plus riche du monde, hein. Donc oui, on est tous égaux. Dans les vieux villages français, il y a un rapport, hein, je vous assure, dans les vieux villages français, il y avait toujours une rue qui s'appelait la rue de l'égalité et c'était toujours la rue qui menait au cimetière. Ambiance, mais ouais, c'est important de rappeler qu'on soit riche ou pauvre. De toute manière, on est tous prisonniers dans ce corps humain.
Et est-ce que le fait justement de devenir médecin généraliste, donc d'avoir une pratique plus humaine en fait de la médecine, puisque finalement les patients que vous recevez dans le cabinet sont là pour des problèmes qui, en tout cas, sont pas gravissimes, ils sont pas en fin de vie ou d'un accident, ça, on n'est pas aux urgences. Est-ce que ça vous permet justement d'avoir pu prendre conscience que, contrairement à ce qu'on vous a appris pendant 12 ans à l'université, le patient est un être humain et pas juste un corps, un amas d'os, de chair et de sang
Moi, j'avais un proche, je me souviens cette phrase horrible. J'espère qu'il est mort. Et il disait, il faut palper la viande, en parlant des patients. Et je me dis, l'hôpital, c'est aussi un lieu où vous arrivez, vous êtes patient, donc a priori malade, donc inquiet, c'est normal. On vous met tout nu sous une blouse, vous êtes allongé sur un lit. Les gens sont debout, donc les rapports sont pas les mêmes. Hein. Et puis les gens savent ce que vous avez, comment vous appelez. Vous savez pas qui ils sont, parce que souvent ils défilent dans la chambre parfois sans se présenter. Et cette violence-là, cette inégalité, cette asymétrie, il faut que les futurs soignants en prennent conscience, quoi. Et ils en prennent jamais aussi bien conscience que malheureusement quand ils passent de l'autre côté. Et moi, je pense, alors pas que ce soit grave, mais ce serait bien que tous les médecins tombent un jour ou l'autre un peu malades, quoi. Juste qu'ils passent deux, trois jours aux urgences et qui soient un petit peu affolés. Et c'est marrant parce qu'ils sont les premiers à critiquer les patients qui vont sur Internet. Mais quand on est dans des groupes de médecins, ils sont les premiers à envoyer des photos du grain de beauté de leur patient en disant « Il a ça, je ne sais pas ce que c'est, dites-moi. Voilà. » Alors eux, ils ont ce qu'on appelle de l'entregent, c'est-à-dire des relations. Mais comment font les gens qui n'ont pas de relations? Ils vont sur Internet et on est tous pareils en fait. On a tous peur pour les gens qu'on aime.
Oui, c'est normal. Enfin, on revient à la chose, c'est de l'humanité brute, en fait.
Oui, et c'est ça qui est bien dans le cabinet, c'est que les gens, ils viennent, ils sont habillés, ils sont pas tout nus. Ça m'est jamais arrivé jusqu'à présent. Et moi, je suis habillé aussi jusqu'à présent. Et... cabinet trop bizarre. Mais ils sont assis, je suis assis. Il y a juste un bureau qui nous sépare. Hein. Et puis surtout, on peut s'inscrire dans un temps long, et ça, c'est très gratifiant. On accompagne les familles, on voit des enfants qui viennent, des adolescents. Moi, j'ai une de mes premières patientes que j'ai accompagnée au cabinet, là, qui va être enceinte. Alors, je l'ai connue à 10 ans, elle a 20 ans, elle va être maman. C'est incroyable d'accompagner les familles comme ça. On est parfois aussi au cœur... au cœur de cette complexité-là, qui est la famille, avec parfois des choses lourdes à porter. J'ai une patiente un jour qui vient et qui était enceinte, et je savais qu'elle avait fait plusieurs fausses couches avec son compagnon et que c'était compliqué. J'aime pas ce terme de fausse couche, faudrait qu'on trouve autre chose, mais rien n'est faux dans une fausse couche. Mais elle était enfin enceinte, et un jour elle vient toute seule, elle dit voilà, elle se met à pleurer, il faut que je vous dise quelque chose, c'est pas lui le père. Je suis allé en boîte, j'ai couché avec un mec, mais il faut que je le dise avant que le bébé arrive, j'ai besoin de le dire à quelqu'un. Le papa est toujours pas au courant, et puis là il y a plein d'hommes dans la salle qui disent oh mon Dieu, mais c'est vrai qu'il me ressemble pas trop. on est au cœur vraiment de la famille.
Oui, et puis témoin privilégié aussi d'énormément de violences, en fait, dans votre quotidien. C'est aussi ce qui traverse, en fait, cet ouvrage-là. C'est toute la question des violences subies par les femmes à différents degrés de gravité, d'une certaine manière. Mais ce qui... En fait, vous recevez 60% de votre cabinet, en fait, votre patientèle sont des femmes, des mères de famille, des épouses ou des filles qui sont... Et vous êtes, bon, le témoin, j'allais dire privilégié, mais c'est pas... Le témoin direct, en tout cas, justement, de toutes ces violences.
Déjà, les femmes consomment plus de soins, mais c'est normal parce que dans la vie d'une femme, il se passe beaucoup plus de choses sur le plan corporel que chez un homme. Chez un homme, on a la puberté, l'andropause, et c'est tout. Et encore, l'andropause, c'est pas grand-chose. Mais chez une femme, il se passe beaucoup de choses. Hein, la puberté, les règles, les éventuelles grossesses, puis la ménopause. Souvent, les gens ils me prennent pour un militant atroce et tout. Moi, j'étais pas du tout militant quand j'ai commencé ce métier. Moi, j'étais aveuglé par mes privilèges. Je pensais que tout le monde avait les mêmes chances que moi. Et puis, je mets maintenant au défi n'importe qui de passer 10 ans dans un cabinet médical, d'accueillir, comme tu dis... pardon, je te tutoie, mais parce qu'on se connaît. Comme vous dites, Sylvain... Fort justement, d'ailleurs.
Je te vous vois depuis le début de la rencontre. Donc on...
Je mets au défi n'importe qui de bosser 10 ans dans un cabinet médical, d'accueillir 30 patients par jour, dont 60 à 70% de femmes, et de ne pas finir par se sentir violemment ébranlé par la somme de privilèges qui sont les nôtres, parce qu'on est né avec un pénis et des testicules. Quoi. L'autre jour, j'ai dit ça, mais je me suis trompé, j'ai dit avec un testicule. J'ai dit, pourquoi j'ai dit ça?
Et pourquoi pas?
Après, j'ai failli dire, non, mais j'ai deux testicules. Pourquoi tu dis ça? Tout le monde... Non, mais ça, ce métier m'a mis du plomb dans la tête. C'est Alors, je n'ai pas tellement d'exemples qui me viennent, mais le plus récurrent, c'est celui de la charge mentale, quoi. Les nanas, elles portent tout, quoi. Elles portent tout. Les pères, ils savent jamais rien. Ils appellent toujours les femmes pour tout. Pour les vaccins, la dernière fois, j'ai rempli un PAI. Vous savez, un PAI, c'est un protocole d'accueil individualisé pour les enfants allergiques. Et il me l'amène. Je dis, alors, c'est très bien. À quoi il est allergique? Parce que c'est la première case, quand même. Il me dit, attendez, j'appelle ma femme. Je dis, mais... c'est ton gosse quand même. Et puis surtout, ça veut dire que c'est elle qui prépare tous les repas, puisqu'il est même pas au courant. Enfin, je trouve ça dingo, quoi. Et jour après jour, année après année, on dit bon, ben, je sais qu'il faut pas tirer de conclusion d'une expérience personnelle, mais là, il y a quand même un schéma de gros connard qui se dessine, quoi. Et malheureusement, ben, tous les jours, alors évidemment, aucune femme va venir me donner 25 euros pour me dire mon mari est génial, on fait l'amour deux fois par semaine, il est super, et ça dure pas trop longtemps. Et en plus, je vais vous donner voilà 25 euros pour vous avoir dit ça. Il fait un peu la vaisselle, mais non, mais j'ai jamais ça, moi. J'ai que je reconnais, c'est un fil. Comme on dit, on n'appelle pas la police quand il n'y a pas de crime. Ben, voilà.
Oui, mais pour autant, voilà, toi, tu es confronté à ça tous les jours.
Oui.
Du coup, je te tutoie maintenant. Mmh. Dimanche soir, parce que tu es très présent sur les réseaux ouais. sociaux, c'est un truc qui, effectivement, depuis 10 ans, alors tu es chroniqueur sur Inter, ça ouais. l'avait dit tout à l'heure, présent sur Twitter et sur Instagram notamment, tu es particulièrement suivi, scruté, commenté et détesté par pas mal de monde.
Ouais.
Toutes tes prises de position, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, que ce soit des choses tout à fait banales comme tes goûts en matière de pizza ou effectivement les violences faites aux femmes. Dimanche soir, tu postes une publication sur des chiffres qui sont assez alarmants de séparation. Enfin, séparation, c'est vraiment un joli mot pour dire ce qui se passe dans le cadre de la maladie. Un post qui a été particulièrement commenté et partagé. Est-ce que tu peux justement revenir là-dessus?
Bon, ça, c'est les réseaux. Moi, je pose juste ce que j'ai envie d'écrire. Après, les gens, ils l'accueillent parfois mal, parfois bien. Oui, je voulais juste... c'est une constatation que j'ai de plus en plus. Parfois, je rentre le soir et je me dis mais est-ce que les hommes aiment vraiment leurs femmes, quoi? Est-ce qu'ils les aiment? L'amour, c'est pas qu'une émotion, hein, c'est aussi une somme d'actes quotidiens. Et je me dis, où est l'amour quand je vois que cette charge mentale est tout le temps portée par les femmes? À quel moment l'homme se dit, mais j'aime ma femme, je veux pas qu'elle porte elle toute seule tout ça sur ses épaules, je vais partager. Et ils se disent pas ça, ou ils se le disent pas assez. Et jour après jour, on se dit, mais où est l'amour? On cherche, on se dit, mais. Et puis petit à petit, on a des consultations parfois assez violentes, on se dit, mais là, l'amour, clairement, il y est pas. Je citais une consultation, je m'en souviens encore. Une femme qui se débat avec un cancer du sein, la chimiothérapie, elle est en pleine ménopause, et le mari qui était là en consultation et qui pleurait en disant, vous vous rendez compte, j'ai même pas droit à une caresse de dépannage, parce qu'elle avait plus envie de faire l'amour. Et je dis, où est l'amour là-dedans, quoi? Et on se pose la question, on se dit, mais bon, c'est une question, je vais creuser un peu. Et puis là, on s'aperçoit qu'en France, 60 à 70% des aidants sont des aidantes, parce que en cas d'annonce de maladies graves, une femme a 6 fois plus de risques d'être quittée qu'un homme. Je dis, mais où est l'amour là-dedans? Alors, en fait, si pour beaucoup d'hommes, la femme est juste celle qui sert à avoir du sexe gratuit de temps en temps, faire à manger, s'occuper des enfants, faire les devoirs, les laver le soir, s'occuper des activités parascolaires, avoir un job en plus à côté pour amener un peu d'argent, où est l'amour là-dedans si elles sont interchangeables finalement. Et ce qui est malheureux, c'est que j'ai publié ça de manière innocente. Bon, non, ça fait 10 ans que je connais les réseaux, mais je pensais pas que ça allait avoir qu'autant d'hommes allaient m'insulter. Je devrais être prévenu maintenant, mais c'est pas grave. Ça compte pas. L'important, c'est tous les messages que j'ai reçus de femmes qui me disaient merci et qui comprennent ce que j'essaye de dire, quoi. Malheureusement, dans nos sociétés, et c'est pas moi qui l'invente. Il y a des études qui sont faites. Voilà, c'est pas moi qui ai sorti ce chiffre de 6 fois plus. Vous pouvez trouver l'étude. Elle a été publiée dans un journal anglais, la revue Cancer, qui est une revue médicale. Voilà, c'est 6 fois plus de femmes qui sont quittées lorsqu'elles ont une maladie grave. Je ne l'ai pas pondu ce chiffre. Il existe. Qu'est-ce qu'il dit de notre société? Qu'est-ce qu'il dit de nos rapports? Et notamment, du coup, de cette question épineuse qui est celle de l'amour. Voilà. Mais j'allais dire les hommes, beaucoup d'hommes. Celle-là, les hommes, après, dédicace, gna gna gna. Vous avez dit les hommes, mais moi, je fais la vaisselle de temps en temps. Et j'ai amené une boîte à cookies pour leur donner. Et, mais beaucoup d'hommes, ben, quand il y a des études qui sortent et qu'elles ne leur conviennent pas, ben, c'est l'étude qui a tort, quoi. Pardon.
Est-ce que malgré tout, tu gardes espoir, en fait ? Parce que là, ça fait 10 ans que tu pratiques la médecine. On sent, malgré toute cette douceur en fait, que tu dégages, effectivement, cette empathie, tout ce que tu répètes en fait, à longueur de journée, que ce soit dans tes chroniques, dans tes livres, à la radio, de justement prendre soin des autres, d'accueillir en fait, l'autre tel qu'il est dans toute sa complexité. Comment ne pas être tout le temps en colère, en fait, quoi ?
Mais je suis tout le temps en colère. Ça ne marche pas. J'ai essayé plein de choses. Hein. Le tour, ça m'a beaucoup aidé. Je fais de la céramique, ça m'a vraiment aidé. Je déchargeais beaucoup de choses. Bon, maintenant, j'ai un bébé, je n'ai pas touché mon tour depuis 4 mois. Pour cette question aussi des rapports hommes-femmes, je garde espoir. Hein. Surtout maintenant que je suis papa d'un petit garçon, j'espère qu'il sera un homme chouette, quoi. Un homme qui saura aimer. C'est-à-dire porter aussi sa charge, c'est-à-dire témoigner par des actes quotidiens qu'il aime la personne avec qui il vit. Je garde espoir. C'est pour ça qu'on écrit des livres, c'est parce qu'on a encore l'espoir. Et puis parce qu'on veut aussi rembourser sa maison. Mais on garde espoir, bien sûr. Mais les livres, c'est tellement politique, un livre. On peut faire passer tellement de choses. Et alors, c'est vrai qu'avec les romans, c'est chouette. Mais je m'aperçois, depuis que j'écris des albums jeunesse, à quel point on peut faire encore plus bouger les lignes en fait avec un album jeunesse qu'avec un roman. Nous, les adultes, on est assez formés, hein, on est déjà quasiment formés. C'est rare qu'un adulte vienne me dire j'ai lu votre livre, ça a changé radicalement ma manière de voir le monde. Mais un album pour les enfants, quand un parent dit tiens, on va lire ce livre ensemble à son enfant. Déjà, le père ou la mère sont dépositaires d'une forme d'autorité, hein, ou en tout cas, ce sont ceux qui sont censés dire la vérité du monde à l'enfant. Et les livres ont eux-mêmes une charge symbolique très forte. La vérité du monde est dans les livres. Et donc, quand un parent dit à son enfant, viens, on va lire un album ensemble, et que dans l'album, moi, j'ai réussi à faire passer des choses toutes bêtes, comme dans Les gens sont beaux, où on a deux yeux pour voir, juste rappeler... qu'on a tous une histoire, qu'on se débat tous avec, et que toutes les histoires sont honorables parce qu'on ne les a pas choisies, et qu'on est humain, qu'on fait ce qu'on peut, dans les limites qui sont les nôtres, et dans le respect de nous-mêmes, quoi. Et je reçois tellement de messages avec ces albums de parents qui disent notre petit a été opéré d'un... Je donne un exemple, un bec de lièvre. Il avait peur de la rentrée, on a lu votre album, et il est arrivé, et au lieu de ne pas en parler, il a cassé le truc tout de suite. Il a parlé avec ses camarades, quand j'étais petit, j'ai une petite opération, c'est pour ça que j'ai une cicatrice. Il était super fier de sa cicatrice, et il leur a dit, c'est mon histoire. On a changé... Alors, je ne sais pas si on a changé le monde, on a changé l'histoire de cet enfant, qui aurait pu être tout autre, mais on a changé le monde. Là, les gens sont beaux, on en est à plus de 100 000 exemplaires. Et c'est pas 100 000 enfants qui vont lire le livre, c'est beaucoup plus parce qu'ils se les prêtent, les familles se les prêtent, les écoles s'en sont emparées. Et je me dis, mais c'est super ce qu'on fait avec les bouquins. Il faut écrire des livres, il faut changer le monde avec des mots. Ouais.
Merci beaucoup, Baptiste.
Merci, Sylvain.
Merci à vous.
Merci.